Good Morning Business, face à le chiffre.
Face à le chiffre, c'est Jean-Marc Daniel. Qu'est-ce qu'on fait avec le pacte de stabilité largement amendé ces dernières années? Alors, au moment du Covid, on l'a carrément fait sauter, les règles n'avaient plus de sens. On a enlevé les dépenses d'armement. Et là, il y a l'Italie qui demande carrément à enlever les dépenses d'énergie. Pourquoi on garde les 3%, Emmanuel?
Ah ben, ça n'a plus aucun sens. Ça n'en avait déjà pas beaucoup. Hein, parce que objectivement, quand vous faites le bilan de ce pacte de stabilité, des critères, etc., je veux dire, il a produit des effets systématiquement contre-productifs par rapport à ce qui était anticipé. Je vous rappelle que le but du jeu, c'était 3% de déficit et pas plus de 60% de dette. Il y a quasiment plus aucun pays en Europe aujourd'hui qui n'est pas très au-delà des 60% de dette, donc ça n'a pas marché. Ça devait favoriser la convergence des économies européennes, ça a accru plutôt leur divergence. Ça a favorisé des politiques pro-cycliques, c'est-à-dire que ça a aggravé les cycles économiques, ça a aggravé les récessions. C'est une politique qui a contribué finalement à la stagnation européenne, notamment dans les années 90 et après la crise de 2008, parce que c'est en partie une politique qui, à cause des objectifs qu'il fallait tenir, a complètement sacrifié l'investissement public au moment où les États-Unis ou la Chine investissaient rapidement. Donc,
c'est trop contraint.
Donc, c'est beaucoup trop contraint, c'est pas distinctif. Donc, heureusement, on commence à aller dans le bon sens.
Avec des dérogations.
Il faut être honnête, oui, mais il faut que tout ça devienne la norme. C'est-à-dire que, un, il faut faire la différence entre les dépenses d'investissement sans limite, les dépenses de fonctionnement. Il faut continuer à sortir, effectivement, et on voit bien que c'est la logique, des catégories de budget. Il faut, par exemple, que la défense soit exclue de ces critères de Maastricht. Donc, je dirais honnêtement que le pic de conneries est dépassé.
Très bien.
Sans doute, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour arrêter que ces critères, finalement, soient un poison pour l'économie européenne, sachant que si les marchés financiers faisaient vraiment leur boulot, c'est-à-dire sanctionnent les États qui gèrent mal leurs finances publiques, on n'aurait pas besoin.
On aurait un taux à 10 ans très élevé. Beaucoup plus.
Oui, mais au moins, ce serait une épée dans le dos pour tous les pays qui ne tiennent pas leur budget, et ce serait une façon beaucoup plus efficace de contraindre à la bonne gestion budgétaire.
Jean-Marc, vous voulez garder le cadre?
Oui, je voudrais garder le cadre parce que je pense que vous faites une description du cadre qui n'est pas ce qu'il est.
Ah.
C'est-à-dire que le cadre, d'abord, c'est pas Maastricht. Maastricht, ce qui est prévu dans le traité, c'est les conditions pour rentrer dans l'union économique et monétaire. Ensuite, il y a, une fois qu'on est dedans, comment ça fonctionne. Et donc là, il y a deux textes. Donc le pacte de stabilité et de croissance qui a été adopté il y a 30 ans au sommet de Dublin et confirmé au sommet d'Amsterdam.
Qui n'est ni un pacte de stabilité, qui n'a abouti ni à la stabilité ni à la croissance. On est d'accord.
Enfin, son nom et il devait s'appeler aussi de l'emploi et puis il y a une...
Ça faisait beaucoup.
Oui, ça faisait beaucoup.
Il y avait des limites à l'indécence.
Oui, mais il y avait une limite. Il y a eu un sommet à Amsterdam. Si j'ai un peu de temps, je rappellerai cette anecdote. C'est-à-dire que Jospin voulait absolument, pour signer ce traité, il venait d'être élu, qu'on rajoute un pacte de stabilité, de croissance et de l'emploi. Et Tony Blair a dit oui, mais il faut aller encore plus loin. Moi, je voudrais rajouter de la joie de vivre. Et donc, avec cet humour british totalement...
Du coup, ils ont enlevé l'emploi.
Les destructeurs, paf ! La démarche de Jospin a explosé en vol. Bon, une fois qu'on a eu adopté ce pacte de stabilité et de croissance, on l'a amendé au travers du TSCG, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Qui prévoit quoi? Il prévoit d'abord que le déficit sur la durée du cycle doit être égal à zéro, donc un déficit structurel égal à zéro, un déficit que l'on sait calculer, malgré les critiques que l'on peut faire à cette notion. Il y a tout un tas de travaux d'économistes, ce qu'on appelle les filtres HP, qui permettent d'avoir la réalité du déficit structurel. Ensuite, un déficit conjoncturel qui est accepté en fonction de la position dans le cycle. Et puis, en cas de circonstances exceptionnelles, la possibilité d'avoir un déficit plus important que les 3%, ce qui s'est passé au moment de la Covid. Ce qui s'est passé au moment de la Covid a été organisé par l'Union européenne et a défini une période pendant laquelle on pouvait dépasser le déficit de 3%. Et il en va de même sur la défense. On peut définir effectivement des conditions d'après le traité qui permettent d'aller au-delà des 3%. Je pense que le véritable enjeu, c'est... Alors, les trois éléments d'enjeu traditionnel...
Il reste 40 secondes.
Voilà, le premier enjeu, c'est que je pense qu'effectivement, il n'est pas assez contraignant en ce sens que ne pas le respecter, il n'y a pas de sanction, c'est la formule de Chirac. Ils ne vont pas nous envoyer les chars. Ils n'en ont pas.
Effectivement.
Et donc, il y a deux pays qui sont au-delà de 5% de déficit, la France et la Belgique, et il y a quatre pays qui sont à des excédents budgétaires en 2025. Et donc, il y a une espèce de distorsion colossale qui s'est faite au sein de la zone. La deuxième, au moment du pacte de stabilité et de croissance, avait été signée la stratégie de Lisbonne, c'est-à-dire l'accompagnement par une stratégie de croissance économique et d'un certain nombre de mesures, notamment des mesures de libéralisation sur le marché du travail, pour faire en sorte que, effectivement, la contrainte budgétaire ne soit pas pénalisante dans la mesure où l'activité privée, la dynamique du marché...
Ça, on l'a pas fait.
Et ça, on l'a pas fait. Ouais. Donc, il faut revenir à l'esprit de la stratégie de Lisbonne.
Et le troisième?
Et le troisième élément, c'est effectivement se poser la question des rapports avec la Banque centrale. Les rapports avec la Banque centrale n'ont jamais véritablement été codifiés. Normalement, ils sont dans le traité de Maastricht, mais le quantitative easing a démoli ce qu'il y avait dans le traité de Maastricht. Et donc, je pense qu'il faut faire un pacte de stabilité et de croissance renouvelé avec le maintien des critères, la stratégie de Lisbonne redéfinie et des relations avec la Banque centrale clarifiées.
Et avec l'emploi, finalement, puisque vous voulez
avec l'emploi, voilà. Et donc, finalement, c'est Jospin qui avait raison. Et le sarcasme de Tony Blair était déplacé.
Ouf. Une fois que vous dites du mal des Anglais.
Mais ça par ironie. En réalité, c'est Tony Blair qui avait
raison.
Et tout
ça irait beaucoup mieux si les marchés financiers faisaient leur boulot, encore une fois.
Ah, ça, je serais prêt à souscrire à cette idée.